diaspora. Et la Torah nous raconte que le temps est né de jouer cette carte-là. Et pourquoi je suis tellement à l'aise pour vous plaider le dossier de Joseph, c'est que quand il est fini ce dossier, il faut le fermer. C'est pas du tout une justification pour un Joseph contemporain. Et il y a eu un Yosef qui est Yosef HaTzadik, c'est celui-là. Les autres, c'est l'échec. Par exemple, le christianisme. J'espère avoir déjà un peu de temps pour en parler aujourd'hui, sinon on revient pour le dernier cours, on reviendra là-dessus. Voilà. Alors que la tentative de Judas, c'est le refus absolu de cette dimension Joseph. Pourquoi ? Parce que Joseph est né à la fin de l'exil de Jacob chez Laban. Ses frères étaient déjà adultes et avaient diagnostiqué l'échec de la tentative Joseph telle qu'elle était chez Jacob. Et il y a beaucoup de textes qui montrent que tout ce qui se passe chez Jacob se passe chez Joseph. Jacob, pas Israël, Jacob, Yosef. Et le tronc Jacob, Yosef. Quand la stature Israël apparaît, c'est que c'est Judas qui a repris le relais. Alors là, c'est Israël. Et d'ailleurs, ce terme de Hurad Mitzrayma pour Yosef va yéren, Yehuda, mais c'est absolument le même mot. Ça veut dire que Joseph est condamné à sa vocation. Ses frères ont fait un jugement. D'après le jugement de vérité absolue, il devait être condamné à mort, Joseph. Pourquoi ? Parce qu'il reprend le rêve de la dimension extérieure de l'histoire d'Israël, alors qu'il s'avère que c'est un échec. Abraham est sorti de Kasdim, Jacob s'est mis au service de Laban, et Laban est devenu Ur Kasdim, il faut s'enfuir. Les frères ont fait le diagnostic, le rêve de Joseph qui vient de naître, et qui reprend cette dimension qui fait partie de la dimension Israël à tous les niveaux, c'est de le condamner à mort, dit le Midrash en clair. Et c'est Réhouven et Yehuda qui l'ont sauvé. Qui l'ont sauvé, depuis, en le vendant aux caravanes d'Ebné Ishmael qui allaient des deux foyers de la civilisation du temps transporter les valeurs économiques. Okay? Alors, Joseph prend sa place là-dedans. Mais Yosef Hurad Mitzrayma, Mida Ishmael, alors qu'il était déjà entre les mains des Médanites. Okay? Et là-bas, il y a un Rashi extraordinaire, vous le verrez par vous-même, où on apprend que Rashi savait, enfin ici c'est un Midrash, que les Arabes ne s'occupent que de pétrole. Vous verrez le Rashi. Parce que là, la Torah nous dit que les caravanes portaient des parfums. Vous avez entendu parler des parfums d'Arabie. Et le Midrash demande, mais pourquoi, que ça peut nous intéresser de transporter, souris à l'autre, les parfums de Gilad. Et alors Rashi dit, parce que d'habitude, ils transportaient du pétrole. Et ça sent mauvais. Quand Yosef HaTzadik était dans la caravane, alors ils ont transporté des parfums. C'est joli en plus. Et voilà donc, je voudrais expliquer, juste, on arrive à l'essentiel du sujet. Après Jacob devenu Israël, il y a deux tentatives qui se dévoilent. La tentative Joseph, c'est de mettre une parenthèse sur l'identité Israël, de se mettre au service de la civilisation extérieure et de tenter de sauver l'humanité par les valeurs des patriarches, mais dans les catégories de la civilisation goy. Et c'est pourquoi ça débouche sur le christianisme. Et la tentative Judas, c'est de faire un diagnostic de refus absolu de cela. C'est un échec. Et le fait que le christianisme a échoué, ça donne raison à Judas. Or, et vous allez me dire, et on sait que le christianisme a échoué. Nous sommes juifs, nous savons. Je vais revenir sur le sujet. Et alors, la tentative de Judas, c'est de revenir à l'identité hébraïque originelle. Je vais vous donner deux termes en français qui nous aident à mieux comprendre la différence de ces deux tentatives. Joseph cherche le salut du monde à l'extérieur, alors que Judas cherche l'avenir d'Israël pour le salut du monde dans l'intérieur de l'histoire d'Israël, ou à l'intérieur, si vous voulez. Ça, c'est Judas. Alors, il essaye d'avoir une descendance par une famille de tzadikim qu'il y avait dans Canaan, c'est la famille de Shuar, Bat Shuar. Ça arrive à une impasse, alors il va épouser Tamar, sa belle-fille, et le Midrash dit qu'elle est la fille de Shem. Ça veut dire qu'il faut retrouver la source la plus antérieure pour qu'il y ait un avenir. Tandis que Joseph, c'est à l'extérieur et c'est l'impasse. Il tombe entre les mains de la femme de Potiphar. Et il se sauve in extremis quand il comprend que ses enfants seront égyptiens et pas hébreux. Voilà grosso modo le thème en question. Et si vous voulez, on va l'analyser un peu plus maintenant, mais c'est l'essentiel. Et nous voyons deux tentatives, deux lignées. Joseph à l'extérieur, Judas qui recherche à l'intérieur. Construire la maison d'Israël en hébreu sur la terre d'Israël. Et plus aucune illusion sur le rêve Joseph. Ça mène à l'échec, ça mène à Auschwitz, Gomorrah. Et c'est comme ça qu'Abraham est sorti de Kasdim et tout le reste. Et voilà, c'est, je suppose, assez clair. Ça nous donnera une clé de lecture, si j'ose dire, des textes que je me propose de lire avec vous. D'une part, le danger de l'aventure Joseph, l'épisode, la femme de Potiphar. Okay. Et quelques mots là-dessus. On apprend que l'intendant de la maison du Pharaon, un certain Potiphéra, Saratabahim, c'est le sacrificateur en chef, et il est eunuque. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'avenir de descendance par lui pour l'Égypte. Et sa femme, c'est Échette Potiphéra. Et elle tombe amoureuse de Joseph. Et elle veut avoir des enfants de Joseph, et ça veut dire assurer un avenir à l'Égypte avec la force des Hébreux, mais à l'égyptienne. Et Joseph se sauve de ce danger, encore une fois, in extremis. Il y a un midrash très caractéristique qui dit, au moment où il allait succomber entre les mains de la femme de Potiphar, il a vu la figure de son père. Et alors il a compris que ses enfants ne ressembleraient pas à son père. Les psychologues modernes parlaient d'inhibition castatrice au moment où il voit la figure de son père. Et sérieux, mais c'est qu'il s'est rendu compte que, d'ailleurs, c'est justifié par le fait que quand, en fin de compte, il rencontre son père à la fin de l'histoire, il lui apporte ses deux enfants pour les bénir. Son père lui dit, ils n'ont pas de barbe, ils ressemblent à des goïs. Bon, alors vous voyez comment est l'histoire. Alors, si vous voulez, on peut commencer par les questions. Attendez, qui était le frère?
Si le père avait déjà
connu,
pourquoi finalement il a fait?
Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Contraire et forcé. Anus al-Piadim. Pas shoot. Jacob lui-même. À partir du moment, rappelez-vous, il y a deux causes à l'exil. Soit chercher femme là où elle se trouve, soit s'enfuir de la colère du frère. C'est clair. Bon, à partir du moment où Jacob a diagnostiqué qu'il y avait de nouveau le problème de la relation des frères entre eux, Jacob a envoyé Joseph se faire envoyer en exil. Hashem, okay? Et il y a une première dimension là. La deuxième dimension, c'est que s'il y a du blé qui pousse, des valeurs qui s'élaborent à la périphérie, alors il fallait les sauver. Donc, dans tous les cas, c'est contraint et forcé. Il y a un Midrash dans le Talmud qui dit que Jacob ne voulait pas descendre, alors qu'il savait qu'il fallait. Et que s'il n'était pas descendu de son propre gré, on l'aurait descendu enchaîné. Okay? Et pour son honneur, la providence a fait que Joseph descend pour lui préparer un accueil princier. Pendant 2000 ans, nous sommes habitués à l'idée que l'identité juive normale, c'est l'exil. Et avec une espérance mythique qu'un jour un Messie viendrait pour nous sauver, tout en se méfiant de tous les faux Messies possibles et imaginables, vrais y compris. Okay? C'est clair. Et alors, il faut se réveiller de cette habitude d'inertie. C'est que la situation d'exil a été toujours connue par les Juifs comme anormale, provisoire. C'est clair? Et que si on la vit, c'est contraint et forcé. Il n'y a aucun Juif normal qui est heureux d'être un Juif de l'exil. C'est clair. Ça n'existe pas. Bon, ça, on pourrait analyser beaucoup, mais je crois que c'est pas la peine de perdre de temps. Ça n'existe pas. Même, je ne sais pas, moi, le grand rabbin d'Angleterre, qui vient d'être anobli par la reine d'Angleterre. Imaginez un rabbin d'origine allemande, en plus. Bon, Jakubowicz, il est de Pologne, son. C'est ça? Jakubowicz. Ah, il a anglicisé son nom? Non. Vous voyez qu'il s'appelle Jacob, celui-là, hein? J'ai pas fait exprès. Elle est un fils de Jacob en béton armé. Et alors, anobli par la reine. Je le connais personnellement, donc je peux me permettre de vous dire ce que je lui ai dit dans l'oreille. Et bien même, lui, quand il fait la prière, il supplie le bon Dieu de le ramener à Jérusalem. Alors c'est un roi de Londres, là-bas. Voilà, alors c'est ça qu'il faut mettre au point. Bien sûr, il faut le faire, alors on y va. Mais on y va en deuil.
Okay.
ne dis pas moi. Hein. C'est pour ça que je dis qui a dit ça. Et je te répète, elle m'a fait poser la question.
Oui.
Je crois que j'ai deviné, mais enfin, fini.
C'est ça, dans le sens que je
avait un peu corrigé les présupposés. Mais tu as très bien fait poser la question. Yosef, il est tzaddik des valeurs matérielles. Ken. Et c'est en cela qu'il est Sikon Shalessa. C'est-à-dire, il fait la preuve qu'on peut être un homme de Orlamazé, un homme de la matière, l'intendant des affaires terrestres et rester tzaddik. Ken. Mais il le fait à titre de cette partie de la mission d'Israël, les valeurs matérielles. Il n'est pas le tzaddik des valeurs spirituelles. Est-ce que c'est clair? Donc, effectivement, la capacité, et là, je crois que vous devrez étudier le respect durable, qui parle de ces deux choses-là, la capacité d'exister sur terre pour Israël nous est donnée par Joseph. C'est Joseph qui nous donne la force nationale, la force terrestre, la force économique, et donc ça nous vient de la diaspora. Alors si la diaspora sert à ça, c'est à ça qu'elle sert, un point. Mais il faut qu'elle le sache. Que la diaspora, ce n'est pas Israël, c'est Joseph. Vous voyez, c'est clair. Elles peuvent, à condition qu'on en ait la possibilité. Mais je veux dire, là encore, on est dans un deuxième schlag. Ça veut dire, pour que l'État d'Israël puisse être créé, il a fallu l'aide du Joseph de diaspora. Ça s'appelle la Madmite. Okay? Mais à partir du moment où il est créé, c'est plus nécessaire que ce soit des Juifs qui fassent des affaires avec Israël, ça peut être des Goyim. Et je vous garantis que si on fondait une magbite chrétienne, il y aurait plus d'argent que la magbite juive. Si on leur donnait ça, en leur disant « Vous êtes diaspora de nous, Israël », ils seraient fous de joie. Mais tant qu'ils n'enlèvent pas leur croix, il n'y a pas moyen. Et je ne vous dis pas des blagues, je connais énormément de dignitaires chrétiens qui ne demanderaient pas mieux qu'Israël les reconnaisse comme une diaspora d'Israël. Et alors vous aurez une magbite en béton armé. Yehuda.
C'est lui qui sauve Joseph
de la fosse.
Et c'est pas lui qui, en tant que chef de...
Je ne me rappelle pas le détail du passage que tu cites, mais il existe. Mais rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Objectivement, Joseph devait être condamné à mort. Et il est sauvé de la mort par Réhouben d'abord et ensuite par Yehuda. Et il est condamné à son rêve. Alors il le condamne à descendre en galoute. Et alors, il dit très bien, et on verra qu'est-ce que deviendra de ce rêveur et de ses rêves. On attend, on va voir. Faites la preuve. Hein? Parce que, à partir du moment, objectivement, ça veut dire les filles à Emet et Mohamed, les filles à Midat Adin, à partir du moment où on a diagnostiqué que la civilisation extérieure, c'est un échec, et si on avait le temps, peut-être, vous me rappellerez ça pour le dernier cours que je ferai à la fin du mois, quand je vais partir en voyage, je vous expliquerai ça. Si on peut se demander si, a priori, la tentative Galout n'est pas condamnée à l'échec de manière fatale. Or, nous n'avons aucun témoignage que ça ait jamais réussi. Alors, je reviens au moment où Jacob s'enfuit de chez Laban, et Dieu sait qu'il aimait son beau-père. Okay? Eh bien, puisque c'est un échec, puisque ce n'est pas possible comme ça, celui qui recommence à rêver à ce rêve est traître à l'avenir de l'histoire d'Israël. Comment? Et traître, c'est condamné à mort. Ou bi'arta hara mikirbef. Il se dévoile par la suite que, bien que ce soit un échec, il faut quand même, et c'est pourquoi le texte que je lis tout à l'heure, il faut une révélation spéciale de Dieu pour dire à Jacob, je sais, mais n'aie pas peur, je te ramènerai. Okay? Le danger, c'est que au départ de Jacob, eh bien, il sait qu'il est métèque, qu'il est étranger, qu'il est réfugié, qu'il est tout ce que vous voudrez. Et puis ensuite, il s'installe et il devient l'intendant de la maison du beau-père. Et alors, il s'installe, il s'oublie. Et il faut que ses femmes lui disent, tu sais, le papa, eh bien, il t'en veut, sauve-toi. Reprenez bien le texte. C'est clair? Donc. Et alors, imaginez... le problème, il y a 40 ans. Moi, je l'ai vécu à la fin de la Shoah. Alors, imaginez, à la fin de la Shoah, qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans le grand monde et dans le monde juif? On a eu la preuve éclatante que la tentative Joseph en civilisation européenne, ça arrive à la monstruosité où c'est arrivé. cette civilisation-là. Et peu importe les responsabilités directes ou indirectes, c'est une chose énorme qui a pu se passer après 2000 ans de civilisation chrétienne en Occident, en Europe. Donc, la Grèce, Rome, tout ce que vous voudrez, les grandes valeurs, l'humanisme, et où ça mène ? Là. Et puis, pendant ce temps, il y a Judas qui revient construire Eretz Israël. Et à ce moment-là, les Juifs décident, non, on reprend un rêve de Joseph. S'il y avait un procès, les fumines d'Atladine, il faut les condamner à mort, tous ces fils de Jacob, là, qui ne veulent pas être Israël. Est-ce que c'est clair ? Essayez de réfléchir. Les Juifs passent leur temps à accuser les goïms de tout ce dont on accuse les goïms. Mais essayez une fois, objectivement, de réfléchir de quoi les Juifs sont responsables, quant à leur propre histoire. Ils creusent les pièges qui se referment sur eux. Est-ce que ça peut être plus clair il y a 40 ans, quand on a ouvert les camps de concentration, quand on a vu ce qui s'est passé, d'admettre des discussions dans les consistoires d'Europe, la Palestine, Israël, les sionistes, où on recommence une histoire qui finirait à Auschwitz? Alors imaginez, Judas, à ce moment-là, il est condamné à mort, tout, sans problème. Avec beaucoup de tendresse, c'est mes frères, je les sauve. Mais les filles Adine, condamnées à mort. Je me rappelle... Elie Wiesel, à la fin de la guerre, j'étais un de ceux qui l'ont accueilli quand il est sorti des camps de concentration. Quelques années après, il a dit une chose qui m'a beaucoup frappé. Il a dit, on discutait de cette thèse qui, d'ailleurs je crois que c'est son avis aussi, je ne me rappelle pas très bien, en tout cas c'est le mien, qui est complètement aberrante de dire l'État d'Israël, on l'a payé par le prix de la Shoah. Que la Shoah, c'était le prix pour avoir l'État d'Israël. C'est aberrant, complètement. Alors il disait quoi? Que ça? Après ce qui s'est passé, un État pas viable, condamné, on ne le savait pas encore, mais à cette guerre, et que Dieu fasse que ça soit fini, un État non viable, à moins que l'humanité se décide à le rendre viable. Et alors, non viable d'après les normes des goïms, hein, en tout cas, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient les goïms. Et alors, dit que ça, normalement, les rescapés des camps de concentration auraient dû mettre l'Europe à feu et à sang. Et au lieu de ça, on s'est contenté d'un petit, une petite soukaria, l'État d'Israël des frontières de 49. Je ne sais pas si vous savez ce que c'était. Et les Juifs ont dit, ça me dit en arabe, Naam Yassidi, ça veut dire, continue, on accepte, tous les cons, on les accepte. Okay? Alors voilà, c'est ça le problème. Okay? De recommencer à dire, on va sauver le monde par la civilisation américaine, et ça se passe là-bas. Et avec le problème que j'ai posé tout à l'heure, et qui devient de plus en plus grave, et quoi là-bas, Babel ou Alexandrie? Et Alexandrie, ça a été le récart du christianisme. Les juifs ont traduit tout en chrétien. Les juifs ont traduit ça. Et c'est ce que font actuellement les juifs de diaspora. Ils traduisent toutes les sources en français, en anglais et en espagnol d'ailleurs. Et c'est étudié par qui? Par les juifs, vous croyez? C'est étudié par les curés. Et c'est un récart à une aventure de type chrétien. Bon, ça pourrait répondre à ta question. Ça t'a étonné, condamné à mort. Ça devait être pire. Voilà, il me reste 10 minutes. Alors je voudrais. Simplement, ce que je vous propose, c'est la fois prochaine, nous lirons deux textes. Le texte de Joseph en Égypte et l'histoire de la femme de Potiphéra. Et d'autre part, le texte de Judas et Tamar. Comment débloquer cette impasse absolue de la suite des Toladot. La suite des Toladot par Joseph, il n'y en a pas. C'est la femme de Potiphar. In extremis, il va retrouver la fille de Dina et de Shrem, l'épouser, ce qui va rendre folle la femme de Potiphar, et avoir Ephraim et Ménaché de l'aventure de Shrem et de Dina. Vous vous rappelez Shrem et Dina? Top. Et avec Judas, Batshua, on verra qui c'est Batshua, c'est stérile, ça, c'est pas fécond. Et alors Judas décide de continuer grâce à Tamar, nous verrons ça plus en détail. Et ça nous amène au livre de Ruth. Simplement, je voudrais vous donner brièvement quelques indications sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il me reste quand même 5 minutes, c'est que la tentative Joseph, c'est la tentative diaspora, c'est clair. Okay? Et c'est Joseph lui-même qui diagnostique le temps où elle doit prendre fin, et Judas prend le relais. Et quand il dit « Pako, di fko, detre, va alité, metafontaï, misé, itere. » C'est Joseph lui-même qui diagnostique cela. Et alors là, j'ai l'habitude de citer ce verset des Tehillim qu'on lit dans le Hallel, « Betzet Israël mimitraïm, Bet Yaakov Me'am Loez, Aïta Yehuda Le Kotsu. À la fin de l'exil, c'est Judas qui prend le relais. C'est clair. Donc. Et on ne peut pas ne pas, c'est un sujet pour lui-même, mais quand même je vous l'indique, on ne peut pas ne pas diagnostiquer cela, c'est que le mouvement sioniste est sorti des milieux les plus assimilés du judaïsme européen. Il ne faut pas croire qu'ils étaient les seuls. Il y avait de très grandes autorités rabbiniques avec eux qui ont reconnu Joseph. Et la majorité des rabbins n'ont pas reconnu Joseph. Et en particulier, je citerai deux grands noms, le Rav El-Kalaï chez les Sfaradim, le Rav Kalischer chez les Ashkenazim, et de notre temps, le Rav Kook, après le Gaon de Vilna, en se basant sur le Gaon de Vilna, qui a diagnostiqué que le sionisme, c'est Joseph, au moment où Joseph passe le relais à Judas. Mais l'image est parallèle, c'est plus qu'une image. Joseph, un juif du ghetto de Goshen rencontrant Joseph le prend pour le pharaon, sans problème. Il n'y a pas de juif plus assimilé que ça. Et puis, c'est ce même Joseph qui va transmettre la consigne, un Moïse viendra pour enlever le déguisement égyptien et vous ramener du palais du pharaon jusqu'au pays des anciens. Alors, c'est très parallèle à ce que je viens de dire. C'est cette partie du peuple juif de diaspora qui a diagnostiqué que l'assimilation elle-même ne pouvait pas être une solution pour la tentative Joseph, parce que non seulement elle mène à la perte physique des juifs, mais aussi à la perte spirituelle, qui ont décidé de fonder le sionisme politique. Et la plupart des fondateurs du sionisme politique viennent de milieux chassidiques. Je ne sais pas si vous savez ça en plus. Okay. Je crois que ça vaut la peine d'étudier cela comme sujet pour lui-même. Bon, j'ajoute encore un principe. Joseph seul, c'est pas Israël. Et Judas seul, c'est pas Israël. C'est quand Joseph et Judas sont ensemble qu'Israël apparaît. Alors, Yehuda, c'est la suite de Jacob dans la Rouhaniyout pure. Yosef, c'est la suite de Jacob dans la Gashmiyout pure. Mais Judas seul, Joseph seul, ce n'est pas Israël encore. C'est pourquoi j'ai cité ces deux mots de Vayeret et Oura. Okay. C'est quand ils se rencontrent et qu'ils s'unifient qu'Israël apparaît. Alors retenez bien ça. Et j'en arrive maintenant au mythe chrétien, très rapidement. Je vous cite la référence, ça se trouve dans le premier chapitre des généalogies de Matthieu, dans l'Évangile. Ce n'est pas la peine de perdre de temps là-dedans, mais je vais vous dire de quoi il s'agit. Alors, cette généalogie, qui prétend être la généalogie du Messie des chrétiens, est divisée en trois groupes de 14 générations. Et dans le premier groupe de 14 générations, le rédacteur raconte les engendrements depuis Abraham jusqu'à David. Et alors, au début, ça commence comme ça, Abraham engendra Isaac, jusque-là c'est cachère, Isaac engendra Jacob, ça va encore, Jacob engendra Judas et ses frères. Si vous voulez vérifier dans le texte, vous vérifiez. On ne s'attend pas à cette expression Judas et ses frères. Surtout chez eux, on devrait s'attendre à Joseph et ses frères. Mais dans notre histoire, l'expression Judas et ses frères existe dans la Gomorra. Yehuda Verod. L'essentiel des enfants de Jacob, c'est Judas. Le reste est en plus. Le reste est avec. Et puis alors, ça va jusqu'au roi David, 14e génération. Ensuite, deux groupes. Un groupe d'abord de 14 générations jusqu'à la destruction du premier temple. Et après, un groupe de 14 générations jusqu'à l'apparition du christianisme. Et alors, vers la fin, il y a un certain Matan qui engendre un certain Jacob, qui engendre un certain Joseph, qui fut le mari de Marie. C'est comme ça dans le texte. De celle dont on dit qu'elle a enfanté, celui dont on dit que. Et c'est dit avec une précision extraordinaire, dont on dit que. Alors, ça veut dire que les rédacteurs de ce mythe veulent indiquer ce qu'ils vont faire. Il y a une première tentative messianique juive, c'est celle de Judas. On va mettre fin à ça et on va reprendre la tentative messianique de Joseph. Et pour que ça soit bien clair, on va appeler l'empêcheur de tourner en rond Judas. Il n'y a pas plus clair que ça. Okay? Est-ce que c'est clair? Okay? Voilà, 12 apôtres comme les 12 enfants de Jacob, et qui va être l'antagoniste du fils de Joseph à la chrétienne? Un certain Judas. Et pour faire bonne mesure, on vous parlera dans un autre livre, dans l'Évangile selon Luc, on vous parlera de deux Judas. un qui est l'Iscariote et un autre qui n'est pas l'Iscariote. Ça veut dire qu'il y a un bon juif, celui qui est devenu chrétien, mais il y a celui-là qui empêche d'eux. Ça veut dire que c'est un complot clair pour les rabbins de ce temps. Et les rabbins ont interdit. On ne joue pas à ça. Ils ont voulu prendre Rome par l'envers, la judaïser à la manière de Joseph judaïsant le pharaon. Est-ce que c'est clair? Bon, voilà, je crois qu'il n'y a pas plus simple que ça. Comment il s'agit d'une tentative de type diaspora, mais à la goy. Et comment elle s'appelle? La messianité de Joseph. Et pour faire bon poids, on l'appelle que c'est lui le fils de David, en plus. Alors les théologiens chrétiens ne s'en sortent pas, parce qu'ils ont oublié tout ça, ils ne savent pas quoi c'est. Mais ils sont en présence d'un fait massif. L'histoire dévoile que c'est les Juifs qui sont Israël et pas les Romains. Et alors, ils cherchent à s'identifier. Et ils ne peuvent s'identifier que par la conversion au judaïsme, et où on va les mettre, ou bien en tant que diaspora d'Israël, mais à ce moment-là, il faut qu'ils se purifient de leurs impuretés païennes. Et il y a des implications politiques colossales. Qui vivra verra comment ça se passera. Mais il n'y a pas de doute que la conscience chrétienne a déjà pris conscience que l'aventure Joseph, c'est fini. C'est les Juifs qui sont Israël. Alors, vous avez une sorte d'alliance objective entre la diaspora juive et cette diaspora chrétienne, entre guillemets. Okay? Et ça s'appelle les amitiés judéo-chrétiennes. Ça ne vous a pas frappé, ça? Ils ont le même problème. Le problème des chrétiens, c'est si c'est les Juifs qui sont Israël, l'Église, c'est quoi? Et le problème des Juifs de diaspora, c'est si les Israéliens qui sont Israël, les Juifs, c'est quoi? Ils ont le même problème. Vous avez compris? Alors, tout ça, ça sort de Joseph. Il y avait un seul Joseph qui était Yosef al-Tzadik, et celui-là s'est dépris de l'emprise de la femme de Potiphar. Tandis que les Josephs qui pullulent en diaspora sont dans les bras de la femme de Potiphar, qui le veuille ou pas.
Vous avez parlé des
Issides, vous avez dit que vous pensez que l'Israël avait tué leurs Juifs. Non, ils ont un autre tirout. Ils disent que c'est l'humanité entière qui l'a tué, il n'y a pas que les Juifs grâce à Dieu. Mais bien sûr, imaginez ce qu'a pu être la source d'antisémitisme chrétien. Imaginez la passion religieuse de toutes ces populations à qui on désigne les Juifs en disant « c'est eux qui sont responsables de l'absence de Dieu ». Pendant ce temps-là, imaginez la réaction, mettez-vous à leur place, dans leur mentalité. Pendant ce temps-là, les Juifs se frottent les mains en disant « la Shrina est absente, elle est avec nous dans les ghettos pour nous protéger ». Et je ne veux pas du tout dire que quand les chrétiens disent que les Juifs étaient ici, ils pensaient à ça. Je ne veux pas du tout dire que quand les Juifs disent que la Shrina les protège, ils pensent à ça. Mais c'est la même chose. Comprenez que c'est la même chose. Quand vous arrivez à réaliser que c'est un monde sans Shrina. Pourquoi? Parce que les Juifs sont en exil. Bon.